Iselmou Salihi, que savez-vous de ce groupe et pourquoi les autres communautés accusent certains Peuls de l'avoir intégré?
En fait, ce groupe, il est apparu de façon violente, principalement à partir de 2015. Même si, durant l'année 2012, lors de l'occupation des grandes villes du Nord Mali, ce groupe ne travaillait pas sous l'étiquette du machina, il travaillait en tant qu'acmi, disons ses membres, parce que ce sont ses dirigeants qui étaient dans les différentes katibas d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et malheureusement, ce groupe s'est illustré, il s'est distingué par la violence et par l'exacerbation des tensions intercommunautaires qui existaient. Par exemple, il y avait des tensions au centre du Mali, mais elles étaient dans des proportions acceptables un peu partout, genre litiges parfois violents entre éleveurs et agriculteurs. Mais avec l'émergence de ce groupe, c'est la dérive sanguinaire. Et cette dérive sanguinaire s'est accentuée aussi par certaines exactions et par un sentiment de stigmatisation qui a été favorable à la radicalisation et favorable au recrutement. Je pense que j'ai écouté tout de suite le discours du président Keïta. J'espère que la parenthèse se refermera et que le Grand Mali que nous connaissons tous, qui est un pays de symbiose, de communion, va redevenir ce qu'il était et ce qu'il a toujours été.
Idriss, le terroriste Amadou Koufa, a-t-il compris les frustrations des communautés dans cette région pour les opposer les unes aux autres dans le but de régner sur cette partie du territoire malien?
Non, si on prend du recul, lorsque les djihadistes ont lancé leur offensive à Sévaré, là-bas, là, vers Kono, et qui ont été arrêtés par la France, à l'époque, on se rappelle qu'il y avait eu, dans la zone de Sévaré, des populations qui ont été ciblées, qui ont été tuées et dont les corps avaient rempli des puits dans cette région. À l'époque, l'armée malienne avait été accusée d'avoir mené ces exactions. L'année dernière, si vous vous rappelez aussi, il y a eu 24 populations peules qui ont été tuées au nord, dans la région de Mopti, dans la ville de Mopti, de l'autre côté. Et je pense que le ministre de la Défense du Mali, à l'époque, avait reconnu que certains cadres de l'armée malienne avaient été impliqués. Donc, ce n'est pas seulement un problème éleveur-agriculteur. Il y a cette sorte de suspicion, comme Amadou Koufa et Peul, on a plutôt tendance à avoir de la suspicion vis-à-vis de ce qui est Peul, d'autant que Iselmou vient de le dire. Il y avait eu beaucoup de Peuls qui avaient participé à l'époque du Moujao, lorsque les djihadistes occupaient le Nord. Mais ça ne veut pas dire que le Tabital Poulakou, par exemple, qui est l'association des Peuls du Fouta, ait quelque chose à faire ou à voir avec ce djihadiste-là. Et qu'ils exploitent un fonds de commerce. C'est le délitement qu'il y a dans le centre du Mali. C'est-à-dire que depuis l'indépendance, qu'on le veuille ou non, tous les gouvernements maliens qui sont succédés n'ont presque jamais, jamais rien fait dans cette région. Il n'y avait même pas de route pour aller à Tombouctou. Et si vous voyez même les hameaux que vous décrivez aujourd'hui, rien n'a été fait. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et c'est la même situation qui prévaut de l'autre côté au Niger. C'est la même situation qui prévaut aussi de l'autre côté au Burkina Faso. Donc il y a un vivier qui est là-bas que les djihadistes de l'autre côté du Burkina aussi exploitent pour en fait canaliser des jeunes vers cette idéologie-là qui est hyper violente.
Je vous propose maintenant deux commentaires Facebook. Mariama Sissoko de Bamako. Au Mali, il n'y a pas de communauté antagoniste. Les Maliens ont toujours vécu ensemble paisiblement et en parfaite harmonie. On veut créer cette haine entre frères maliens. Le complot est bien là en mettant dos à dos les communautés. Cherchons plutôt à démasquer l'ennemi réel au lieu de laver les mentalités en faisant croire que c'est un problème d'ethnie. Jean-Luc Moukoutou de Lubumbashi. Tant que ces milices auront des soutiens forts et opaques, même s'il y a l'appui des troupes étrangères, la situation ne sera pas décantée de sitôt, car comment expliquer que l'armée malienne et tout l'arsenal militaire étranger qu'il y a soit incapable d'éradiquer ces forces obscures? C'est absurde. Le problème du terrorisme en Afrique est complexe et il faudrait que les Africains eux-mêmes se prennent en charge en identifiant bien les causes. Eh bien, Jean-Luc Moukoutou, vous nous tendez la perche, car dans quelques instants, nous allons voir ce qui peut être fait pour permettre un retour au calme dans cette région malienne. N'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient après cette courte pause. Merci d'être toujours branché. Nous tentons de décoder les affrontements dits communautaires qui déchirent une partie du Mali depuis 4 ans. Kassim Traoré nous propose ce micro-trottoir réalisé à Bamako.
Vu que c'est les mêmes cas qui continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que vraiment le gouvernement malien a beaucoup minimisé sur la situation.
Il y a de multiples morts et par centaines. À un moment donné, il faut s'orienter vers d'autres partenaires militaires qui peuvent nous parvenir en aide. Parce que comme vous le savez, depuis un certain temps, il y a plusieurs opérations. Il y a une opération de des Nations Unies qui est au Mali ici. La MINUSMA, à laquelle on a demandé à maintes reprises de rendre plus robuste leur mandat, ils ne l'ont jamais fait. On a l'opération Barkhane qui est là, plus de 4000 hommes sur notre territoire. On a le G5 Sahel, on a toutes ces forces-là. Qui ne sert quasiment à rien aujourd'hui, qui n'empêche pas en fait les multitudes de meurtres et tueries qui sont les multitudes de massacres même qu'il y a aussi ici au Mali. Alors aujourd'hui, le Mali doit s'orienter, à mon avis, vers d'autres partenaires, tels que la Russie.
Il faut un cadre politique que le gouvernement invite la population, qu'il s'assoie, qu'il discute. Afin de trouver une solution idoine à ces attaques-là. Sinon, le cadre militaire, quand même, on voit que ça n'a rien apporté.
Si je dois accuser aujourd'hui une organisation, c'est l'ONU. Pourquoi ? Parce que sa mission était de protéger ses populations paisibles, sans armes, sans armée. Et aujourd'hui, à leur présence, ces populations ont été victimes de ce génocide que l'histoire du Mali n'a jamais connu. Que nous, les Maliens, nous n'avons jamais connu. Nous ne comprenons absolument rien. Et aujourd'hui, c'est même difficile pour moi de porter une analyse très claire sur cette situation.
Et nous retrouvons nos invités de la capitale malienne, Maître Saran Keïta, présidente du conseil d'administration de OneUp Mali, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Également avec nous, Baba Dakono, il est chercheur à l'antenne de Bamako de l'Institut d'études de sécurité ISS Africa, de Nouakchott en Mauritanie, Selmou Salihi, directeur du journal Tahlil Hebdo, et à mes côtés à Washington, mon collègue Idriss Fall, senior éditeur au service francophone de la VOA. Baba Dakono, on ne vous a pas entendu dans la première partie de cette émission. La crise qui prévaut actuellement dans cette région particulière du Mali est-elle complexe? Va-t-elle bien au-delà des conflits intercommunautaires? Aidez-nous à mieux comprendre.
Oh, oui, effectivement, la crise qui se vit actuellement dans le centre du Mali, elle est complexe, elle est multidimensionnelle et la tentation elle est grande de réduire cette crise à sa seule dimension intra-communautaire ou dimension extrémiste violente, mais la crise elle est beaucoup plus complexe. J'ai entendu tout à l'heure Maître Saran rappeler que c'est en fait un cycle de violence qui est en cours dans cette partie du pays et on a l'impression que les communautés autorités sont prises dans l'engrenage de cette violence et avec le sentiment que les réponses institutionnelles, notamment sécuritaires aujourd'hui en cours, sont très peu efficaces. Ces communautés, de façon individuelle ou collective, se sont armées pour faire face à l'insécurité qui devenait grandissante dans la zone. Et cette volonté de s'armer rendue possible avec l'accès facile aux armes a rendu la violence encore plus grande et encore avec le cycle qu'on connaît au Gossagou au mois de mars, puis la commune de Sanga dernièrement, les marges de manœuvre sont beaucoup plus réduites. Mais je voudrais aussi revenir sur un des aspects qui avait été soulevé tout à l'heure, je crois, par Fall, sur l'exploitation des failles dans la gouvernance qui est faite par les groupes extrémistes violents pour s'implanter, mais pour recruter. C'est une réalité, mais ce n'est pas la seule stratégie de ces groupes-là. Malheureusement, ils exploitent toutes les failles. Les failles de la gouvernance et c'est vrai que les communautés dans une grande majorité dans ces localités ont adhéré au discours de ces groupes extrémistes violents qui ont pointé du doigt les limites dans la gouvernance et notamment dans le fait que ces États ne parvenaient pas à fournir les services sociaux de base et la justice au cœur des grèves de ces communautés. Mais il y a également l'exploitation, comme je le disais, des failles dans les rapports sociaux, notamment ces rapports qui sont cuivant de façon historique. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs ont été rappelés, mais il a existé aussi de façon historique des conflits au sein de ces communautés, mais également entre elles, principalement autour des ressources naturelles très limitées dans ces zones, mais également des luttes de pouvoir au plan local. Donc ce sont toutes ces failles qui sont exploitées par ces groupes extrémistes violents qui se sont installés et qui continuent leur processus d'implantation et l'expansion actuelle géographique de la menace démontre cette capacité de ces groupes extrémistes à identifier les failles, qu'elles soient sociales, économiques ou politiques, et à les exploiter pour s'installer et donc rendre beaucoup plus dynamique et plus complexe les moteurs de la violence qui ont été peut-être toujours présents dans ces localités.
Ouais. Et Idriss, vous voulez appuyer l'argument de Baba Adoktakodo?
Oui, on va dans le même sens. Et c'est un problème, je ne dis pas seulement malien, c'est un problème au Burkina. C'est un problème au Niger. C'est-à-dire que, bon, et en plus, la nature a horreur du vide. On attaque les préfectures, des écoles sont fermées dans le centre du Mali. C'est pareil au Burkina Faso. Et ce vide-là, les enfants qui ne vont pas à l'école, dans 20 ans, ils vont devenir quoi? Donc, c'est ce que Baba Adoktakodo dit. Il y a des gens qui vont s'infiltrer dedans et qu'ils ont de la matière pour recruter.
Maître Saran Keïta, nous avons donc compris que dans cette région se mêle la violence entre communautés, attaques djihadistes et opérations militaires. Quelle solution à la crise, d'après vous?
Comme solution, il va falloir préconiser 3-4 solutions.
Oui.
En fait, il faut que l'État assume ses responsabilités en assurant une présence effective sur le terrain. Il a été dit avant moi, les écoles sont fermées, les préfectures sont fermées, il n'y a personne. Donc les populations sont laissées à elles-mêmes. Il va falloir comme première solution que l'État assume sa présence sur tout le terrain. Et aussi, comme deuxième solution, il faut aller vers le désarmement de ces groupes armés, groupes armés, milices armées, associations armées, je ne sais pas quel nom donner, mais il faut aller vers leur désarmement total. Ils ne peuvent pas rester avec les armes, avec des populations qui n'ont rien du tout, donc il faut aller vers leur désarmement. Aussi, surtout sortir du cycle de l'impunité. Ça se passe comme ça tous les jours au quotidien, il n'y a pas de réponse de la justice. Les populations sont laissées comme ça, les exactions sont faites. Il n'y a rien qui est fait par rapport à cette situation. Donc, ça encourage ceux qui sont en train de le faire et les victimes restent comme ça. Les gens commettent des crimes, il n'y a jamais eu de poursuite, il n'y a jamais rien eu. Donc, il va falloir que l'État revienne sur tout cela et qu'il y ait une justice par rapport à la situation, qu'il y ait des poursuites, qu'on puisse voir des gens passer devant les juridictions maliennes ou même les juridictions internationales. Sinon, en l'État, ça va rester un problème récurrent qui n'aura pas de solution, qui va rester comme ça.
Sarah Keïta, je vous propose d'écouter cette question d'une téléspectatrice de la VOA à Yaoundé, Marie-Jeanne Abiga.
question est de savoir si, face à ces attaques répétées dans les pays du Mali et du Burkina Faso, les différents gouvernements ont pris des mesures adéquates pour associer les populations locales et autochtones dans le processus du dialogue et du renseignement adéquat afin de venir à bout de ces malfrats. Je vous remercie.
Voilà, Saran Keïta, que pouvez-vous répondre à Marie-Jeanne Béga?
Il y a eu beaucoup de tentatives de chercher des solutions. Mais j'avoue très sincèrement qu'il faut que l'État soit présent dans ces zones-là. Les zones sont... on l'a dit avant moi, il n'y a pas de préfecture, les écoles sont fermées, l'administration est absente. Comment est-ce que les populations seules, face aux hommes armés de mauvaise foi, peuvent faire quelque chose? C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible.
Oui.
Donc, il va falloir que, comme solution à préconiser, oui, que l'État revienne sur le terrain et après, on va passer au dialogue. Sinon, on ne peut pas faire le dialogue avant que l'État ne revienne sur le terrain. L'État revient sur le terrain, le dialogue va commencer à la base, c'est-à-dire au niveau des hameaux, des villages, des communes, des cercles, et ensuite on va monter au niveau des régions et au niveau national pour aller vers une concertation nationale pour chercher une solution. On fera une synthèse de tout cela, et cette synthèse servira de base à la politique qui sera mise en œuvre pour la réconciliation. Sans cela, on ne peut pas aller vers une réconciliation. La réconciliation repose sur quelque chose, et cette chose-là, il faut l'avoir à travers le dialogue d'abord au niveau de la base.
Baba Dakono, vous avez entendu le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, après le dernier carnage en date. Il dit que la survie du pays est en jeu. On se souvient qu'après le carnage de Gossagou, le gouvernement a complètement été remplacé. Pourquoi la situation ne s'est-elle pas améliorée? L'État malien a-t-il une stratégie claire et nette pour enrayer cette crise?
Sur cette question, on rejoint celle plus large des solutions aujourd'hui qui sont mises en œuvre. Et ces solutions, elles sont à plusieurs niveaux. Il y a les solutions au niveau local, les solutions nationales, mais également régionales. Et quand on prend l'exemple des solutions locales, c'est tout simplement la naissance de ces milices armées et de ces groupes d'autodéfense. Parce que, comme je le disais, les communautés ont très peu confiance en l'efficacité des réponses institutionnelles aujourd'hui, donc se sont senties dans le besoin de s'armer pour faire face à l'insécurité. Au plan national, tout comme au plan régional, ce qu'on observe, c'est que même si la menace, elle, n'est pas nouvelle, les manifestations ou les formes qu'elle prend aujourd'hui semblent être nouvelles. Donc, il y a un problème de compréhension. Et la plupart des solutions sont soit basées sur les peurs, sur les anecdotes. Donc, il y a comme une sorte de décalage aujourd'hui entre les solutions et la réalité, la compréhension des phénomènes. Donc, sinon, les initiatives existent et continuent de courir. Aujourd'hui, le gouvernement malien a adopté depuis 2016-2017 un plan de sécurisation intégrée des régions du centre. Mais ce plan, dans sa mise en œuvre, a souffert de tous les problèmes que rencontre ce type de plan, parce qu'il a voulu lier sécurité et développement. Mais malheureusement, dans la mise en œuvre, c'est beaucoup plus les aspects sécuritaires qui étaient en avance au détriment des mesures qui visent le développement et qui rejoint la proposition de mettre ça en tout à l'heure. Il ne s'agit pas de la présence de l'État. L'État a été censé faire une présence comme par le passé à travers un bâtiment administratif ou la présence d'agents de représentants de l'État qui sont contestés par les communautés. Ce n'est pas évident que l'on puisse sortir du problème. Il faudrait que la présence de l'État soit en lien avec son utilité, que les communautés perçoivent l'utilité de cet État-là et que cette présence puisse prendre en charge les besoins élémentaires des communautés. Et ces besoins, c'est d'abord la sécurisation, c'est la sécurisation de leurs biens, mais également de leurs personnes, l'activité économique, mais également les services sociaux de base et les questions de justice. Donc voilà des solutions globales face à des menaces qui sont aujourd'hui multiformes.
Idriss, pourquoi l'armée malienne et les casques bleus de l'ONU ne parviennent-ils toujours pas à mettre un terme à cette violence dans cette région du Mali?
Bon, il faut dire que les casques bleus de l'ONU, il faut qu'on soit clair. On ne les a pas amenés là-bas pour protéger les populations, on les a amenés là-bas pour faire une opération de maintien de la paix entre l'armée gouvernementale et les ex-rebelles. C'est ça qui fait qu'ils sont venus et qu'à un moment donné, les djihadistes se sont mêlés à la danse. Donc ça, il faut que ce soit clair. qu'on demande qu'on renforce le mandat des casques bleus. Tous les gouvernements maliens l'ont demandé, mais je pense que les casques bleus bangladeshis ou indiens qui viennent au Mali, beaucoup de soldats ne viennent pas là-bas pour se faire tuer. Il faut que les gens soient clairs. Quand que les casques bleus, c'est des soldats qui viennent d'autres pays pour faire du maintien de la paix et ils ne viennent pas là-bas pour se battre. Ils viennent là-bas pour se remplir les poches et rentrer chez eux. C'est connu. Je pense que c'est un diagnostic assez dur, mais j'ai déjà vécu l'expérience en République démocratique du Congo où leur présence n'a jamais empêché les massacres qui continuent à grande échelle un peu partout. Ça, c'est un. Le deuxième niveau, c'est que l'armée malienne a souffert pendant très longtemps des premiers accords de paix avec les rebelles Touareg sous le président Alpha Omar Konaré, qui lui était le premier civil élu au Mali et qui a eu peur de l'armée et que je pense qu'il a contribué à fragiliser l'armée malienne. Il y a eu par la suite la mise en place de tous ces groupes d'autodéfense qu'on appelle Ganda Koy, Ganda Iso, et même si vous rappelez les derniers accords d'Alger, il y avait des groupuscules qui, que l'on disait proches du gouvernement, en dehors des autres milices rebelles. Donc, tout ça dans un pays, il faut désarmer ces groupes-là. Aujourd'hui, elles sont multipliées. Il y a des groupuscules qui disent qu'ils défendent les populations Dogon. Il y a d'autres groupuscules, Ganda Iso, qui disent qu'ils défendent les populations Peul, qui n'ont rien à voir avec les Amnoun Koufa. Et tous ces gens-là, je pense que ça contribue au mal malien parce que tout le monde a des armes. Et ça fait du mal un peu partout à l'absence de l'État.
Salih, l'État malien a encore des difficultés pour reprendre le contrôle total dans le nord. Que doit-il faire pour ne pas le perdre complètement dans le centre du pays?
Je constate que la situation s'est relativement améliorée au nord, avec la mise en œuvre en fait attenante de l'accord de paix d'Alger. Oui. Même si quand même les années 2016, même une partie de 2017, ont été beaucoup marquées plus par les affrontements entre les groupes armés du nord pro et anti-Bamako. Mais je pense, mais je vois malheureusement que la situation a évolué négativement vers le centre du Mali. C'est plutôt aujourd'hui le centre du Mali, la zone des marais, qui est une source de préoccupation, avec les écoles fermées, avec les services du CAPSA, et avec des enfants laissés à la rue, et avec l'emprise des mouvements djihadistes. Mais ce n'est pas seulement des mouvements djihadistes. Il y a les communautaires, il y a les grands bandits, il y a les seigneurs de guerre. Il y a tout ça, donc face à cette solution de non-État, la solution c'est l'État. C'est l'État. Allez. Quand il n'y a pas d'État, il y a d'autres acteurs. Quelqu'un a dit tout à l'heure très intelligemment, la nature a horreur du vide. Donc il faudrait que l'État s'assume et qu'il s'assume dans la justice, dans l'équité, dans l'absence d'impunité, mais aussi dans les programmes socio-économiques, ce qui n'est pas malheureusement le cas. On ne peut pas compter sur la coopération internationale pour ça. On ne peut pas compter sur des partenaires. Dans le cadre de l'intégrité territoriale, les États sont appelés à s'assainir. Ils sont appelés à avoir le monopole de la violence. Le monopole de la violence dans tout État qui se respecte, c'est les forces de sécurité et de défense, et la violence, ce n'est pas que d'autres acteurs qui ne font pas exactement puissent pratiquer la violence et l'exercer. Donc il faudrait que l'État s'assume. J'espère que les choses vont évoluer positivement. Sinon, nous n'avons plus un problème seulement au Nord. D'ailleurs, le problème au Nord est en train de se régler. Donc nous allons avoir un problème au centre. Et ça va évoluer malheureusement vers le Sud. Vous avez vu tout récemment la tentative de kidnapping des touristes au Bénin. Vous avez vu les Canadiens qui ont été enlevés au Bénin. Donc vous avez le problème au Burkina. Vous avez un problème dans la zone des trois frontières. Donc l'enjeu, c'est que les États s'affirment au sein de notre frontière,
et
qu'il s'affirme en tant qu'État juste et crédible.
Voilà, on va y revenir certainement. Point final à ce Washington Forum. Merci à nos invités. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. Un petit clin d'œil à nos radios et télépartenaires, dont l'ORTM au Mali. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.